C'est le temps de parler des avantages numériques, parce que c'est à la mode aujourd'hui chez les Canadiens. Bruno Gervais est avec nous. Salut Bruno!
Salut, comment ça va?
Ça va très bien toi-même, Bruno?
Très bien, très bien.
Bruno, quand j'entends l'entraîneur-chef Claude Julien après le match hier, gars, je vais m'en occuper moi-même personnellement, puis ça sera dès demain, faisant référence à aujourd'hui. Le coach n'est pas content, tout le monde le sait. On a beau avoir les entraîneurs adjoints qui vous donnent un coup de main, mais quand le coach en chef s'implique dans ton unité spéciale puis dans le fonctionnement de ton affaire, je pense que tout le monde va marcher un peu plus les fesses serrées. Je me trompe-tu?
Ah non, t'as raison là-dessus. Habituellement, un des entraîneurs est en charge de ça, va travailler avec les joueurs, va faire les vidéos. Mais l'entraîneur-chef est tout le temps très impliqué, mais c'est une façon pour lui de libérer un peu de charge de travail, d'impliquer ses assistants-entraîneurs avec lui, de communiquer avec les joueurs. Mais là, c'est une question de structure, c'est une question d'effort. C'est pas mal plus facile de redresser un désavantage numérique qu'un avantage numérique. Parce que à ce moment-là, quand tu défends, t'as pas la rondelle, tu contrôles un peu l'intérieur de la boîte, l'intérieur de la zone. Et souvent, le Canadien se fait prendre dans des moments d'hésitation, des entre-deux, des zones grises. C'est ce que tu veux éliminer. Puis là, d'où la présence de Claude Julien, il va être certain que tout le monde est sur la même page.
Bon, Bruno, OK. Ce qu'on va faire, là, c'est que je pense que tout le monde a entendu les analyses sur le désavantage numérique. Toi et moi, Bruno, on va jaser de hockey un petit peu, OK? Puis tu me dis si je me trompe, je te lance quelque chose, puis tu te dis si je me trompe. Est-ce que ça se peut que certains joueurs sur le désavantage numérique aient encore une petite tendance offensive? C'est qu'on est prêt à tricher, mais on est prêt à aller surtout rapidement en contre-attaque. Est-ce que ça se peut, ça?
Ça se peut. J'ai déjà vu ça. C'est déjà arrivé. Des fois, il y a cette mentalité-là. Puis de plus en plus, quand tu regardes à travers la ligue, quand tu regardes les joueurs qui sont utilisés en désavantage numérique, c'est de plus en plus à la mode de garder un esprit de peut-être utiliser le fait qu'il y a un défenseur de l'autre côté, parce qu'à travers la ligue aussi, la majorité, la grande majorité, c'est pas toutes les unités, les premières unités d'avantage numérique, c'est quatre attaquants et un défenseur. Donc, des fois, tu gardes cette mentalité-là, mais quand tu regardes le personnel, le Canadien a cette profondeur-là, a ce luxe-là, d'avoir des joueurs de soutien, des joueurs de rôle qui sont là en désavantage numérique. Fait que je pense pas que c'est quelque chose qu'on aperçoit, qu'on voit beaucoup à Montréal. C'est quelque chose qu'on peut voir dans certaines équipes, certaines places en travers de la Ligue nationale. Mais selon moi, c'est pas quelque chose qui est en train de s'infiltrer dans le désavantage numérique du Canadien.
OK. Quand Claude Julien dit il y a des gars qui sont trop occupés à donner des doubles échecs devant le filet et oublient de surveiller le joueur qui est à côté. Écoute, moi j'ai le goût de mettre entre parenthèses Chiarot. Mais je veux t'entendre là-dessus. Tu as été défenseur dans la Ligue nationale de hockey. Tu peux pas te mettre passer ton temps à frapper à coup de double échec un joueur. Faut que tu regardes où est rendue la rondelle dans le territoire. Faut que tu t'assures d'être en bonne position.
Non, il y a eu une époque où tu voulais faire payer le prix aux joueurs qui étaient devant le filet, puis tu voulais le faire résister à ce qu'ils viennent se placer tout près. Mais si tu regardes là, physiquement, si tu es en train de donner un double échec, ton bâton est où? Il est dans les airs, il est dans le dos du joueur, tu ouvres les lignes de passe. Et c'est ce que le Canadien se fait avoir beaucoup dans ces passes transversales-là. C'est un effort de quatre joueurs, quatre bâtons, huit patins qui sont sur la glace. Et même des fois, la façon que tu vas placer tes patins, tu essaies de couvrir le plus d'espace possible. Tu te dois de couvrir ces lignes de passe-là parce que en bloquant ces lignes de passe-là, tu permets à ton gardien d'être un peu plus agressif, un peu plus en contrôle parce qu'il est en confiance du fait que la passe ne pourra pas traverser la boîte défensive. Et quand tu as ton bâton dans les airs, tu es pris avec un joueur, tu t'élimines du jeu, toi, complètement. Les joueurs de talent, les joueurs qui sont là en avantage numérique, vont voir ça, vont reconnaître ça, puis sont capables de faufiler une rondelle à travers les patins.
OK. Maintenant, Bruno, je continue. On jase hockey, puis là, tu me corriges quand je me trompe, OK? Je regarde le désavantage numérique du Canadien, puis je pense que c'est pas mal tout le monde dans la Ligue nationale qui joue de la même façon. C'est-à-dire, on va jouer un gars qui va être en haut pour couvrir le parapluie de l'avantage numérique de l'équipe adverse. Après, c'est 1-3-1. À moins que je me trompe, là, ça ressemble pas mal à ça. Puis on échange de place entre les deux attaquants quand la rondelle part d'un côté ou d'un autre. Avoir la bonne vieille boîte traditionnelle plus serrée dans le centre de la glace, est-ce que ça serait pas une option intéressante pour le Canadien?
Mais le problème avec la boîte, c'est que quand tu fais face à ce parapluie-là ou à ce 1-3-1 des avantages numériques adverses, la boîte, tu te retrouves entre deux et tu vas ouvrir, à ce moment-là, tu ouvres complètement les lignes de tir. Et là, ça va être une pluie de lancers sur réception du haut des cercles. La façon que le Canadien veut jouer, souvent, dans le langage, en jargon, on va l'appeler le high-up, ça ressemble un peu à un I où les deux attaquants vont être alignés un en arrière de l'autre. Ouais. Un qui va couper la ligne de passe transversale, un qui est un peu plus sur la pointe en avant et les défenseurs qui peuvent sortir. De là, tu peux avoir une permutation où tu as peut-être un des deux attaquants qui reste devant des joueurs qui est au top des cercles et un attaquant qui reste devant le joueur qui est à la ligne bleue et ton défenseur vient couvrir l'autre côté. Mais tu te dois tout le temps d'avoir un joueur qui est près du bumper, le maraudeur, lui qu'on appelle à l'intérieur de la boîte défensive. Tu as besoin d'avoir un joueur qui couvre lui et ce joueur-là a la double mission de couper la passe transversale et de s'assurer que le maraudeur, le bumper, ne peut pas prendre un lancer sur réception. Fait que c'est là que de jouer la boîte défensive, c'est difficile parce que tu as deux attaquants qui se compromettent haut dans la zone. C'est là que le maraudeur devient très, très, très dangereux et tu crées un surnombre dans le bas du territoire. C'est pour ça que le Canadien, on le voit, tu as quasiment trois joueurs qui vont jouer bas, un peu plus bas, puis tu as un joueur qui va sortir dans la ligne de tir quand la rondelle est en haut à la ligne bleue. Mais il y a souvent beaucoup de situations présentement où tu vois le défenseur du côté de la rondelle du Canadien être très agressif et aller loin. Et c'est ce que les attaquants des autres équipes vont vouloir. Tu veux attirer le défenseur le plus loin possible parce que là, tu crées un trou dans le centre de la boîte, tu crées un trou dans la zone payante. Et là, tout le monde tombe en mode un peu panique où on veut couvrir cet espace-là. Et c'est là que les lignes de passe, les lignes de tir vont se créer. Un désavantage numérique est en contrôle, qui est bien positionné. Ça va être simple. Il n'y aura pas beaucoup de déplacements parce que tu as juste à bouger ton bâton, deux, trois petites enjambées, tu es à bonne place. Là que ça devient compliqué, c'est quand il y en a un qui est allé trop loin et là, tout le monde veut couvrir cet espace-là, faire le travail de l'autre. Ça devient beaucoup plus difficile et c'est là que l'autre équipe peut en profiter.
OK, Bruno, je continue. Et là, tu me dis si je me trompe. Je regarde comment ça marche avec le désavantage numérique. Là, l'avantage numérique, ça va bien. L'an passé, c'était le contraire. Et là, on veut trouver des solutions chez les Canadiens. J'en sors une du champ gauche puis tu me dis ce que tu en penses. Il y a un gars à Laval, et là, je sais que les gens vont prendre le clos, ils vont m'écouter. T'as Carl Osner qui est à Laval, qui est un gars qui a été réputé toute sa vie pour bloquer des lancers, pour être bon à des avantages numériques. Je regarde Sherrod qui est là, je me dis, honnêtement, Osner peut pas faire pire que lui en des avantages numériques. Est-ce que ça peut être une option pour le Canadien?
Ben, j'aime le fait que tu penses à l'extérieur de la boîte. Ça, c'est très intéressant. Chapeau pour ça.
T'es poli.
Le problème, c'est qu'on n'est pas au football. Tu peux pas juste avoir des joueurs qui vont jouer sur les unités spéciales puis garder ça sur ton banc. T'as pas 50 joueurs sur ton banc puis là, tu décides d'en envoyer un. C'est que tu continues à jouer à 5 contre 5. T'as 6 défenseurs qui sont habillés. C'est présentement, oui, je pense qu'il pourrait être utile en désavantage numérique, mais viendrait prendre une place dans l'alignement pour un joueur qui veut jouer le reste du temps à 5 contre 5 et en désavantage numérique. Et s'il y a une facette, c'est pas mal plus facile de corriger un désavantage numérique que corriger un avantage numérique. Le Canadien, avec un avantage numérique qui va bien, ça, c'est du bonus. Là, le désavantage numérique, moi, ce que je vois beaucoup depuis le début de la saison, c'est des zones grises, des zones d'hésitation. Il arrive toutes sortes de situations. Je sais pas si vous vous rappelez, au Minnesota, quand Paul Byron a pris sa pénalité en troisième période, le but qui a créé l'égalité, après la mise en jeu, Philippe Dano est tombé. Il est resté pris. C'est un match de lutte en plus Eric Starr. Mais lui, il est tombé, il sort du jeu. Et là, tu as Lekkonen qui sort. Et là, il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Est-ce que je prends le tir? Est-ce que je couvre mon joueur? Il est resté entre les deux joueurs. Il y a une passe qui s'est glissée pour un lancer sur réception. C'est le but. Ça, c'est toutes des choses que, OK, c'est arrivé, c'était un moment, ça va arriver dans un match. Ça va se reproduire ça où un des deux attaquants va tomber sur la glace ou va être dans une bataille pour la rondelle, ne peut pas sortir. Et l'autre attaquant se doit d'acheter du temps, se doit de donner le lancer le plus facile pour le gardien. Là, tu corriges ça rapidement. Tu le montres en vidéo une fois, tu le corriges. Et là, c'est ces zones grises-là qu'il faut que ça s'efface tranquillement chez le Canadien. Le personnel est là. Tu regardes les Nate Thompson, les Byron, les Armia, les Weber, Sherrod, Petrie, t'as du personnel pour très bien jouer en désavantage numérique. Là, c'est juste de corriger, OK, là, il faut enlever ces zones d'hésitation-là parce qu'on le voit à quel point la rondelle bouge très bien sur les avantages numériques. Et la seconde que t'hésites, il est trop tard, ça se trouve dans le fond du filet.
Bruno Gervais, dis-moi, le Canadien fiche de 4 victoires, 4 défaites, 2 défaites en prolongation. Quel bilan tu fais du Canadien après 10 matchs?
Il y a eu des beaux flashs. Il y a eu des beaux flashs d'une équipe qui est capable de prendre le contrôle d'un match. Moi, je trouve cette année, c'est selon moi, pourquoi c'est la conversation dans la chambre, c'est pourquoi les rencontres, puis que ça va continuer à être sévère dans l'entourage du Canadien. c'est que ça n'a pas fonctionné avec tous les cylindres pour un match cette année. Il y a tout le temps eu une facette qui n'a pas fonctionné. Oui, une partie du match. C'est pas un 60 minutes. On se rappelle qu'un match contre Tampa Bay, il y a 3 buts rapidement que le Canadien s'est marqué. Le match est terminé. Il y a des moments clés où on dirait que tu as le potentiel, tu as la profondeur, tu as beaucoup d'outils. Et là, il y a une certaine frustration. Peut-être pour certains, c'est pas une aussi belle saison que l'année dernière. C'est difficile. Des fois, on essaie quand tu commences à prendre une certaine confiance. Des fois, c'est la nature humaine. Tu vas couper un coin un peu plus rond. Tu veux y aller un petit peu dans ce qui est un peu plus facile. Et là, ça devient, avec la parité de la Ligue nationale, ça devient dur pour le Canadien de revoir ce succès-là. Et présentement, tu as des bons moments, tu as ci, ça, mais il y a tout le temps une petite lacune, que ce soit une facette, le désavantage numérique en est un, ou la zone défensive à un autre match, un 5 minutes dans ce match-là. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui cloche avant d'avoir qui empêche la bonne performance de 60 minutes à l'identité du Canadien. Et c'est là que le message, là, c'est continuer à taper sur le clou. Il faut la constance. Il faut qu'on soit capable d'amener ça match après match, d'amener ça encore plus aux 60 minutes possibles et établir notre identité. Parce que c'est un style de jeu, le Canadien, extrêmement intense, rapide, demandant pour les joueurs. Mais là, ces zones-là grises, ces moments-là font qu'ils sont en train de se tirer dans le pied un petit peu. Et il ne faut pas attendre après Noël ou en mois de décembre pour réajuster le tir. C'est maintenant parce qu'on sait que la course va être serrée jusqu'à la fin.
Ben, tu vois, Bruno Gervais, je suis content de t'avoir parlé. Premièrement, tu as été très poli avec moi. Je te remercie énormément. Et surtout, ça éclaire nos lanternes sur la situation du Canadien en désavantage numérique. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Bruno Gervais.
Le plaisir pour moi. Passe une belle soirée.